Chapitre 40. Tu as bronzé ou c'est l'éclairage? Je jetai un coup d'œil à mes avant-bras. 3 heures au soleil, même hivernal, avec une peau qui bronzerait sous un plaid. Derek avait peut-être raison. Nous finissions de régler les derniers détails sur les suites de l'opération à Genève quand Nathan entra, s'efforçant de se coiffer avec les doigts. Le résultat était saisissant. « L'eau est un poil froide, » lança-t-il en guise de salut. « Mais les lavabos taillis à même la roche, ça en jette. » Derek sourit et enchaîna en disposant des photos sur la table. « Je vous ai apporté les clichés pris par drone ce matin. À première vue, ils se regroupent au-dessus de la galerie de Serlong. Le matériel des sites nord et sud se déplace pour venir renforcer celui du nord-est. Ils misent tous sur leur percement à l'explosif. « Logique, » fis-je remarquer. Il n'y a que cette base-là qui leur ait donné un espoir. On a d'autant plus intérêt à ce que notre mur tienne. Et du côté des recherches? Rien de neuf. Tôt ce matin, Benoît a prévenu Yoda qu'il avait trouvé quelque chose du côté du moulin, mais ce n'est qu'une cache contenant du matériel de distillation et de cuisson. C'est plutôt bon signe, non? Plutôt, oui. À propos de cuisson, le repas sera servi dans 2 heures au grand réfectoire. Vous y serez? On vous rejoindra. Derek opina et repartit vers ses occupations. J'écrivis rapidement la date sur les dernières photos tout en m'adressant à Nathan. « Tu te sens prêt pour une petite visite de la partie la plus secrète de cette fourmilière ?» Pour toute réponse, il s'inclina en désignant la sortie, m'invitant à lui montrer le chemin. Nous allions cette fois descendre. Descendre au plus profond de la cité.
Démarche, encore démarche. Je vais finir par regretter les joggings à Rueil.
Eh ben pas moi, fis-je en grimaçant. Mourir une fois, ça m'a suffi. Quelques volées de marche plus bas, nous empruntâmes une galerie dont le sol n'était plus dallé, mais fait de terre battue. Aucun projecteur n'avait été descendu jusqu'ici. Nathan portait une lampe frontale. J'avais fixé la mienne à ma ceinture. On avait l'impression d'être dans une grotte et non plus, comme quelques étages plus haut, dans un réseau structuré de tunnels. Creusé en suivant une veine de terre qui serpentait entre les masses de roches, le boyau était aménagé sommairement. Par endroits, le roc était creusé de profondes entailles à hauteur d'homme. « À quoi servent ces enclaves ?» demanda Nathan. « À passer les pièces de bois trop longues. Le chemin est sinueux. » La construction du moulin a nécessité des poutres et des madriers qui ne pouvaient être amenés que par ici. Aussi a-t-il fallu découper ces encoches pour passer les virages. Nous croisâmes un frère et 2 chercheurs revenant du moulin. L'un d'eux était trempé. Quelques instants plus tard, nous arrivâmes dans une cavité naturelle dont partaient plusieurs boyaux. J'examinai les signes gravés dans les murs et promenai ma boussole à ras de terre pour choisir le bon. Quelques courbes plus loin, le boyau se retransforma en galerie classique. Les dalles remplacèrent la terre battue et la roche brute céda la place aux parois lisses de pierre taillée. Plus nous descendions, plus la pente s'accentuait et plus l'assemblage des blocs se modifiait. À présent, les pierres n'étaient plus rectangulaires, mais prenaient la forme de parallélogrammes étranges, des triangles dont on aurait tronqué une pointe. Tout a l'air d'être en biais, fit remarquer Nathan en effleurant les blocs, et pourtant, les joints sont parfaitement ajustés. Cela ne te fait penser à rien? Il haussa un sourcil. Si, à Tintin et le Temple du Soleil, ou à des monuments précolombiens. C'est la même technique d'assemblage. Les premiers temples d'Amérique du Sud ont été bâtis à flanc de montagne, mais pas simplement posés. Ils étaient littéralement encastrés dans la paroi. Les architectes précolombiens avaient mis au point un procédé qui décuple la résistance des murs assemblés face à la pression de la terre qu'ils retiennent. Tailler les pierres en trapèze permet une meilleure répartition des forces contre la maçonnerie et empêche les pierres de jouer les unes par rapport aux autres. Dans un assemblage de blocs par empilement, tu peux, avec quelques efforts, enlever un bloc sans tout démonter. Avec ce système, c'est impossible. Le mur est comme tressé, maintenu par les forces d'inertie et de pression dans un équilibre que même nos ordinateurs ont du mal à comprendre. Nathan observait les pierres taillées aussi loin que nos lampes pouvaient les éclairer. Chacun de ces blocs a été calculé pour résister à la pression de la terre qui entoure cette galerie.
C'est ça.
Mais songe à autre chose. Ces galeries ont été construites entre 1150 et 1200. Or, l'Amérique n'a officiellement été découverte par Christophe Colomb que presque 3 siècles plus tard. Maintenant, je vais te raconter une histoire que tu croiras si tu veux.
Pourquoi si je veux?
Parce que ce que tu as appris depuis quelques jours est seulement un savoir supplémentaire qui vient s'ajouter à ce que tu sais déjà. Alors que ce que je vais te dire maintenant va fondamentalement remettre en cause tes certitudes. L'histoire que je vais te raconter est la vraie version d'un mensonge historique que tu tiens pour une vérité absolue, comme quasiment tout le monde. Nathan s'appuya contre les pierres.
Vas-y, je suis prêt, balance.
Bon. Tu sais que le port de La Rochelle existe depuis le début du XIIe siècle. Les Templiers ont poussé son développement pour accroître leurs liens avec leurs implantations sur les îles anglo-saxonnes. C'est probablement de cet endroit que sont partis les navires qui, après une escale à Cork, en Irlande, ont réussi les premiers à rallier les côtes américaines à la hauteur de l'actuel Mexique. Les hommes qui étaient à bord étaient soit des moines, soit des membres de l'ordre. Ils n'étaient pas venus pour conquérir, seulement pour s'implanter. Ils ont apporté leurs connaissances et sont repartis avec d'autres en échange. Ils avaient la science de la défense et de l'esprit. Les peuples indigènes, eux, avaient une très importante avance dans la médecine et possédaient de l'or à profusion. Une partie de la puissance financière de l'ordre du Temple provenait probablement de l'or rapporté des Amériques. Nathan hocha la tête. Il ne perdait pas un mot. Pendant plus d'un siècle, cette découverte resta secrète, mais réfléchie. Les habitants de ces côtes lointaines ont brusquement fait usage de la fourchette alors qu'il n'y avait jusque-là aucune trace de cet ustensile sur le continent. Ils ont inventé la culture intensive, de nouvelles formes d'écriture, et ont conçu l'organisation de cités qui leur valent aujourd'hui l'admiration du monde entier. Or, tous ces changements fondamentaux sont intervenus dans un laps de temps très court et sans faire suite de façon cohérente à d'autres inventions qui auraient pu en être les prémices. De plus, on retrouve souvent dans les ornements de leurs édifices la représentation d'un homme, barbu et de type européen, armé mais que les autochtones entourent pacifiquement, habillé d'une tunique, portant parfois une croix. Les Templiers revenaient de ce continent plus riches par l'or, mais aussi par les savoirs qui leur ont permis de construire ce mur, ou de résister à des épidémies dont personne ne réchappait grâce à la médecine des plantes. Nathan considéra la paroi de pierre taillée avec un autre regard. Après que Philippe le Bel eut donné l'ordre d'arrêter les Templiers le vendredi 13 octobre 1307, ces espions trouvèrent trace de la relation d'échange qui liait les Templiers aux civilisations sud-américaines. Il nous manque alors des éléments, mais toujours est-il que, dans le premier quart du XVe siècle, probablement grâce aux sbires de l'Inquisition, le projet d'une expédition vers l'Amérique prit forme. Pour préserver le secret du projet, tout fut mis en place afin de faire croire à une découverte fortuite guidé par une exploration censée rallier l'autre face du continent asiatique pour y faire commerce. C'est bien sûr une pure coïncidence si Christophe Colomb a suivi la même route que les navires templiers. C'est un simple hasard si les voiles de ces 3 navires arboraient la croix templière, la plus grande qu'on ait jamais vue. C'est aussi par chance que les indigènes l'ont accueilli sans surprise. Presque par habitude, comme l'a consigné un homme d'équipage de la Santa Maria. En parant ses navires de cette croix qui, sur ses rives, inspirait confiance, Colomb a pu accoster en ami et y prendre pied. La suite, on la connaît. Les pillages ont succédé au massacre, le tout au nom de la volonté des monarques et de l'amour de Dieu. Nathan contempla à nouveau le mur silencieusement en caressant les pierres.
Allez, viens, on n'a pas fini la visite.
Mais pourquoi ne pas dire la vérité? Pourquoi personne ne sait? Demande-toi s'il est utile de rétablir une vérité après tant de siècles. Va convaincre tout un peuple que les héros qu'ils vénèrent depuis des générations sont de petits magouilleurs à la solde de mégalomanes égoïstes. Le jour où ils te croiront, ils foutront tout en l'air, et toi avec. On a déjà assez de travail à essayer de préparer l'avenir sans se compliquer avec le passé. Un mensonge vieux de 5 siècles, ce n'est plus un mensonge, c'est l'histoire. Nous nous remîmes à marcher. Notre monde repose sur ses convictions. Au fil des âges, l'humanité a construit sa propre mémoire, pas seulement par ses actes, mais surtout par le témoignage qu'elle en a laissé. C'est l'histoire écrite qui fait notre vision des hommes, pas l'histoire vécue. Et les combats sordides entre des châteaux voisins parce qu'un seigneur convoitait la fille d'un autre deviennent une noble lutte de clans. Les attaques sournoises à base d'otages et de traîtrises se transforment en morceaux de bravoure. Pense à tous les temps forts de l'histoire et à la façon dont on les présente. Remets-les dans leur contexte et regarde ce que cela devient quand tu imagines des humains dans les rôles principaux. Je ne pense pas qu'un homme en armure ait l'air majestueux en montant sur son cheval. Je ne crois pas qu'un humain puisse sacrifier sa femme et ses enfants à une nation et en être heureux. Je doute que les croisades aient seulement eu pour but d'apporter la parole du Christ. Il me paraît improbable que l'engagement des armées dans un conflit, quel qu'il soit, ait pour ambition la seule défense de la liberté. 3 moteurs font fonctionner le monde. L'intérêt, la peur et le sexe. Ceux qui ne marchent pas à ça sont rares et fous. Toute ta vie, on te chante la pureté de tes ancêtres, l'époque bénie d'avant la tienne, où tout était forcément mieux. Nous sommes les meilleurs, notre armée est invincible, il y a une justice, les hommes de loi sont intègres. Autant de principes que l'on nous apprend et que la vie dément à chaque seconde. Nous sommes tous les mêmes. Chaque guerre a démontré l'écart entre les stratégies et les résultats. Un simple voleur à la tire a plus de chances de se retrouver en prison qu'un ex-nazi. De toute façon, aussi coupable ce dernier soit-il, un avocat acceptera toujours de le défendre au nom de l'équité et d'un gros chèque. La réalité n'est pas belle. Une seule chose me fait garder espoir. Si les hommes se croient obligés de maquiller l'histoire pour masquer leur bassesse aux yeux de leurs descendants, c'est peut-être parce qu'ils en ont honte. De la honte au repentir, le chemin n'est pas forcément long. Cette évolution prendra peut-être des siècles, mais il faut bien l'entamer, ou la poursuivre. Pas pour Dieu, pas pour l'État, seulement pour chacun d'entre nous, et c'est beaucoup plus important. Si tous ces mensonges historiques sont le seul fruit de la vanité, alors la civilisation est perdue. L'égoïsme est notre seul prédateur sur Terre. Je m'arrêtai et regardai mon ami dans les yeux. Regarde ce monde avec un esprit critique. N'accepte jamais une information sans lui avoir fait passer tous les examens que permet ton raisonnement. Tu en tireras une vérité qui ne pourra jamais être universelle, mais qui, au moins, t'éclairera, toi. Ne méprise pas ceux qui ne la verront pas comme toi. Ils n'ont pas toujours tort. Explique-leur ta vision. Éloigne-toi d'eux si aucun dialogue n'est possible. Ce sont des principes. Tu y dérogeras autant que tout le monde, mais plus ils seront présents en toi, plus tu seras pur. Ébranlé, Nathan approuva en silence. Je repris la marche, le laissant assimiler à son rythme ce que je venais de lui dire. C'était essentiel. Au bout de la galerie au mur si anachronique, la pente devint plus faible et les pierres reprirent progressivement la forme cubique qu'on leur connaissait. À présent, les parois du tunnel se resserraient. Soupçonneux, Nathan promenait le faisceau de sa lampe du sol au plafond à la recherche d'un élément qui lui permettrait de comprendre vers quel nouveau piège il se dirigeait. Je m'arrêtai pour l'observer. Seuls ses pas, de plus en plus lents, résonnaient. Il réalisa que je le fixais sans bouger. « Tu n'avances plus? Il faut que je passe devant? » « Vas-y, tu ne risques pas grand-chose. » Nathan serra les dents. Il devait penser à tous les gouffres et les pentes glissantes qu'il avait croisées depuis 48 heures. Il se méfiait probablement beaucoup plus depuis que je lui avais dit qu'il ne courait pas grand risque.